RCF. L'essai remarquable que nous propose aux éditions Kimé Jean-Marc Guitti, intitulé « Avec et par-delà l'écologie, la Camargue », présente différentes orientations de l'écologie contemporaine. Jean-Marc Guitti en discerne quatre. Et lors de la précédente émission, nous nous sommes particulièrement intéressés à l'écologie systémique venue des États-Unis qui tente de faire la synthèse entre une écologie héritée du 19e siècle et une vision technocratique, scientiste peut-être même, de l'écologie. Pour cette seconde émission, nous allons, avec Jean-Marc Guitti, voir trois autres formes d'écologie. Celle qui s'oppose à cette écologie techniciste. Une écologie chrétienne aussi, car elle est importante, elle a son histoire et sa théologie. Et puis, nous terminerons l'émission sur cette écologie topique et poétique qui constitue d'ailleurs la dernière partie de l'ouvrage de l'essai de Jean-Marc Guitti. Bonjour Jean-Marc Guitti.
Bonjour.
Alors, nous avons essayé de débroussailler cette notion que vous évoquez, que vous analysez en la définissant comme une écologie systémique. À l'opposé, vous voyez une autre tendance, parfois tonitruante, qui est celle de l'écologie des ZAD, à l'opposé, finalement, d'une écologie du tout numérique, n'est-ce pas, Jean-Marc Guitti?
Oui, absolument. Elle est quelquefois tonitruante, cette écologie des ZAD, mais elle est parfois aussi assez discrète, parce qu'à mon avis, elle relève de quelque chose d'ancien, qui est apparu au 19e siècle, l'éco-anarchisme.
Oui.
Elle peut se vivre de manière communautaire, des communautés relativement discrètes, finalement. Et elle est tonitruante lorsqu'elle entre dans la lutte contre certains projets.
Oui, nous en avons eu quelques exemples récemment, celui des bassines par exemple, ou des méga-bassines, oui. Et c'est aussi une écologie communautaire qui fait de la lutte politique aussi un élément important, une lutte contre une certaine conception productiviste de l'industrie, voire parfois anticapitaliste.
Oui, en fait, la société industrielle dès qu'elle s'est mise en place, elle a eu des opposants. Parce que assez vite, dès le 19e siècle, on a vu ce que ce capitalisme qui se mettait en place avait de délicat à soutenir, parce que c'est la recherche du profit maximum.
Et immédiat, souvent.
Et immédiat. Et que c'est, et qu'il peut être extrêmement déshumanisant. Et très tôt, donc, il y a eu un courant anti-industrialiste qui s'est illustré dans les luttes du 19e siècle. Pas, évidemment, dans le courant marxiste qui, lui, a souvent été productiviste le même modèle, finalement, que le capitalisme.
Il faudrait chercher du côté de Proudhon, par exemple, pour cette vision-là.
Oui, Proudhon, et puis la belle, très belle figure du géographe anarchiste Élisée Reclus.
Reclus, oui.
Et ça repose sur l'idée que le capitalisme dépossèdent les hommes de leur travail, qu'ils les privent d'autonomie, qu'ils les obligent à s'inscrire dans le système industriel à la fois comme producteurs, dans des appareils productifs où ils ne maîtrisent rien, ils peuvent même être simplement des travailleurs à la chaîne, à la fois comme producteurs et comme consommateurs, n'ayant plus aucune forme d'autonomie et d'autosubsistance, ils sont obligés d'une part d'être salariés, d'entrer dans le système productif, et d'autre part d'acheter tout ce qu'ils ont besoin, donc ils sont consommateurs. Et par rapport à ça, il y aurait l'idée il serait possible d'imaginer des vies communautaires, certes, mais peut-être en dehors, relativement en dehors de ce système, où les hommes se seraient réappropriés leur travail, le travail serait plus libre, ils ne seraient pas contraints, salariés, et se seraient aussi réappropriés leurs propres besoins, parce que dans le capitalisme, souvent, on vise à satisfaire de faux besoins, des besoins qui ont été créés, oui, par le système publicitaire, etc. Et donc, ça suppose aussi un retour à une certaine forme de sobriété, de vie moins confortable, peut-être. C'est ce qui nourrit cet éco-anarchisme.
Et c'est aussi le retour à des communautés humaines plus réduites, loin précisément de ces cités tentaculaires dans lesquelles souvent l'écologie systémique a pu naître, et le retour, comme vous le disiez lors de la précédente émission, à des lieux bien délimités, à des pays, comme on a pu dire autrefois.
Oui, ces communautés vivent en échange et en harmonie, du moins elles essaient, avec leur milieu et donc avec les caractéristiques géographiques et zoologiques, botaniques du milieu qu'elles habitent. Elles ont quelque chose de proche de la nature, comme on peut le dire de manière très très approximative, et elles, du coup il y a quelque chose qui intéresse peut-être le philosophe aussi là-dedans, c'est cette possibilité de vivre à part et un peu en retrait.
En retrait,
qui a toujours,
oui,
qui a toujours été quand même une tentation de certains courants philosophiques, hein, depuis l'Antiquité. Seulement, voilà, moi je pense aussi que ce qu'elles peuvent faire reste limité sans doute, parce que quand on étudie ces communautés, on s'aperçoit que ce sont surtout des gens qui appartiennent à un moment de leur vie, mais oui, qui n'y restent pas toute leur vie.
Et qui n'y restent pas, effectivement. Comme en témoigne par exemple l'expérience du Larzac dans les années 70.
Oui. Et c'est vrai que quand on pense au Larzac, c'était une communauté fondée sur une lutte, mais aussi qui avait un enracinement fort par rapport à un milieu, et puis qui pouvait aussi avoir une orientation spirituelle parfois. On pense, oui, à Lanza del Vasto ou,
oui,
à d'autres.
Oui. Et alors, spirituel me fait rebondir sur cette autre forme de l'écologie à laquelle souvent nous ne pensons pas. Vous proposez aussi une analyse synthétique de ce que vous appelez l'écologie chrétienne. Et je voudrais qu'on insiste là-dessus, justement parce que j'ai lu cette fameuse lettre apostolique la plus récente, qui témoigne du souci du pape François face à la destruction presque systématique de notre terre et même parfois du vivant. Cette écologie chrétienne a une histoire, a une généalogie que vous situez déjà à l'époque du monachisme.
Oui, ce serait limité de croire que c'est le pape François qui introduit l'écologie dans l'Église. Il y a quelque chose, au contraire, de fondamentalement écologique, je dirais, dans certains courants du christianisme. On peut penser évidemment à Saint François, mais pas seulement, parce que finalement, quand on regarde comment était ordonnée la vie des monastères, on voit que la relation au milieu y était très importante. Et puis il y a quelque chose aussi de fondamental, à mon avis, c'est que quand on entend des militants dire qu'il faut sauver la terre, c'est cette notion de salut.
Qui revient
par rapport à une catastrophe qui peut-être est imminente. Et donc, ça fait penser au tout début du christianisme et à cette idée qu'on était peut-être à une fin du monde. Et donc, je fais une petite étude de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le catastrophisme, peut-être la dimension apocalyptique de l'écologie, qui, en cela, n'est pas du tout nouvelle, parce qu'elle ravive, je dirais, ce que je vais appeler un imaginaire de la catastrophe et du salut, qui est vraiment au tout début du christianisme. Et cette idée, d'ailleurs, n'est pas seulement judéo-chrétienne, puisque quand on regarde l'Antiquité grecque, par exemple, Platon, il y a toute une théorie des catastrophes. Alors, ça m'a... l'Atlantide, cette île qui a été engloutie. Et quand on regarde pourquoi elle a été engloutie, c'est parce que s'y était développée une société d'opulence qui avait tendance à ne pas rester dans les limites assignées à l'humain. Et quand on regarde du côté de la Bible, on trouve aussi que les catastrophes viennent toujours
après une transgression,
punir une transgression.
Voilà. Elles punissent.
Et donc, c'est bien cet imaginaire-là qui, aujourd'hui, est ravivé, avec cette idée que l'homme s'est trop développé par l'industrie, qu'il a dépassé certaines bornes, et que donc, il va peut-être y avoir une catastrophe, mais il y a un appel au salut. Et je dirais qu'il y a une sorte d'imaginaire qu'on repère en toutes les cultures, et par rapport à quoi l'écologie n'est pas si nouvelle que cela, même dans sa forme catastrophiste qui aujourd'hui l'emporte sur les autres formes.
Oui, dans ce courant très présent actuellement, qui peut prendre la forme extrême, par exemple, du survivalisme.
Oui, cette idée qu'il faut se préparer à une fin du monde redonne, à mon avis, une actualité au christianisme.
Alors, le christianisme, lui, je le lis dans votre essai, parle d'une écologie intégrale qui concerne la nature, qui concerne aussi l'environnement urbain, la relation au corps, dont vous parliez dans la précédente émission, et aussi la diversité culturelle. Il ne s'agit pas simplement de la relation que nous avons à notre planète dans cette écologie intégrale.
Bon, elle a le mérite, cette écologie intégrale, d'être cohérente. Il y a quelquefois en écologie des incohérences chez les uns et chez les autres. Par exemple, vous parliez de la question du corps. Et effectivement, on peut parfois vouloir défendre le milieu naturel, mais ne pas se préoccuper du corps. Et quand je dis le corps, c'est le corps charnel, c'est-à-dire c'est pas simplement quelque chose de matériel, c'est tout notre être physico-psychique avec toutes les émotions qui le traversent. Et donc c'est pour cela que la notion d'écologie intégrale me semble d'une grande cohérence et que de ce point de vue-là, elle mérite d'être très très prise au sérieux.
Prise au sérieux. Quelques notes de musique aussi maintenant, Jean-Marc Guitti. Le sacre du printemps, alors peut-être faut-il y voir un élan, un enthousiasme et ne pas nous désespérer face justement à ce monde qui autour de nous semble aller si mal. Jean-Marc Guitti, il y a une cohérence, disiez-vous, dans l'écologie chrétienne, cette écologie intégrale. Venons-en maintenant à l'exemple que vous développez longuement dans votre essai, comme un exemple finalement d'une écologie topique et poétique, la Camargue. Alors, nous vivons en France, la Camargue, nous pouvons y aller très aisément. Zone fragile, zone menacée que celle de ce delta du Rhône, comment ? Par quels efforts conjugués, finalement, cette Camargue a-t-elle pu être sauvée, enfin encore sauvée ?
Oui, il y avait en Camargue, comme dans la plupart des territoires, des projets industriels, notamment liés à l'exploitation du sel pour l'industrie pétrochimique. Et puis, il y avait le projet, il y a toujours d'ailleurs dans des cartons, le projet d'assécher le delta. Ça s'est fait ailleurs. Par exemple, le delta du Pô, il est très productif d'un point de vue agricole parce qu'il a été asséché. Et puis, il y a eu aussi le projet de construire des routes, parce que c'est assez facile comme c'est plat. Et tous ces projets ont été combattus par les habitants de la Camargue. Ils ont été combattus victorieusement jusqu'à présent, enfin relativement, parce qu'il y a quand même l'avancée du monde agricole du riz et de la vigne. Mais il y a une Camargue encore pastorale.
Sauvage, dites-vous.
Encore sauvage, oui. Et d'ailleurs, la sauvagerie, c'est un peu ce qu'on essaye paradoxalement de cultiver en Camargue. Et si ça a été possible, mon idée, mais je pense que c'est assez évident, c'est qu'il y a eu une valorisation culturelle de ce territoire. Ça s'est tombé à un moment où Mistral avait fondé le Félibrige, c'est-à-dire une association d'écrivains qui était très attentifs à la Provence, à la langue. Oui, à la langue provençale, à la culture provençale et aussi au territoire, au paysage. Et dans cette Provence, à un moment, Mistral a rencontré un jeune poète, Folco de Baroncelli, qui avait qui aimait beaucoup les chevaux et qui avait très envie de s'occuper de la Camargue. Alors Mistral lui a dit, toi tu pourras t'occuper de la Camargue, qui est un petit morceau de la Provence. Et Baroncelli est allé s'y installer, et au lieu de mener une vie d'écrivain, ce qu'il aurait pu faire, il
comme
a écrit,
Mistral.
Mais pas beaucoup, voilà, comme Mistral, eh bien, il est devenu manadier, c'est-à-dire qu'il a élevé des taureaux avec cette idée qu'il fallait retrouver la race quasi préhistorique du taureau. C'est une idée un peu mythologique. Il s'est intéressé au territoire à travers une mythologie qui lui était propre, une mythologie du taureau, mais il a façonné toute une identité camarguaise à partir de cette mythologie qui, chez lui, était aussi une mystique du taureau, comme on le voit dans ses poèmes. Et donc, il est assez clair que ce courant poétique, littéraire, culturel, a pu être partagé, grâce à la personnalité de Folco de Baroncelli, partagé par presque tous les habitants qui ont ensuite eu à cœur de se mobiliser pour défendre leur delta. Et je pense que si dans toutes les régions menacées, il y avait un travail culturel de fond sur l'identité d'un pays, et d'un petit pays, il serait plus facile de mobiliser les habitants contre des projets qui quelquefois sont inutiles et quelquefois même sont nocifs.
C'est ce que vous dites dans des termes plus abstraits, dans cette phrase, le salut écologique, j'entends, le salut de la Terre est local. Lorsqu'il y a une conjugaison entre de grands esprits, parfois de grands intellectuels, mais aussi des gens qui vivent dans ces territoires, il peut y avoir une possibilité de sauvegarder, sinon de sauver, une terre, un lieu menacé.
Je dirais même que cette capacité à sauver un lieu menacé, elle se vit souvent dans la lutte, et la lutte, c'est un moment de fraternité. Parce qu'il y a dans mon livre cette idée qu'on ne peut pas trop compter sur la politique politicienne.
Oui. Vous parlez d'écologie impolitique.
Voilà, l'écologie impolitique, ça veut dire, dans mon idée, c'est que le système de représentation politique ne suffit pas à défendre tous les aspects de la communauté, de la vie communautaire. Je pense que quelqu'un comme un poète, quelqu'un comme Folco de Baroncelli, par exemple, représente aussi ses contemporains, représente les habitants, et représente sous la forme d'un, je dirais, une forme non politique. Mistral représente à un moment la communauté provençale. Il n'y a pas que la politique pour représenter les gens qui se mobilisent. Et l'idée, c'est qu'à travers la mobilisation sur des luttes, il y a une sorte de fraternité qui peut être recréée dans ce monde si individualiste qui est le nôtre. Si on en reste à la politique et au jeu, par exemple, parlementaire, oui, on en reste à quelque chose de très primitif qui est la horde, comme la horde primitive, comme on parle Freud. Et pour vivre véritablement la fraternité entre les humains, il faut quelquefois sortir du jeu politique politicien et je dirais se libérer un peu de la politique ou des approches politiques. C'est en ceci que je propose le mot d'écologie impolitique.
Je ne voudrais pas terminer cette émission sans avoir parlé de la convocation, je mets le mot entre guillemets, qui m'a paru singulière, mais que vous allez nous expliciter, de Bataille dans son rapport avec l'écologie. Et c'est dans la dernière partie de votre essai que vous abordez cette notion pour créer finalement ce que vous appelez une sorte de transécologie. Dites-nous, Jean-Marc Guitti.
Georges Bataille, c'est l'écrivain surréaliste oui. qu'on connaît. C'est aussi un théoricien, qui est l'auteur d'un livre fondamental qui s'appelle « La part maudite ». Et je l'ai convoqué principalement pour illustrer cette question de la fête. Car un territoire se valorise souvent à travers ses fêtes. C'est aujourd'hui quelque chose peut-être de difficile à faire admettre à tout le monde. On pense que les fêtes populaires, par exemple les fêtes autour du taureau qui constitue le cœur de la Camargue. On pense que ces fêtes populaires sont peut-être un peu ringardes, ou en tout cas qu'elles sont aussi instrumentalisées par des gens, de droite, même d'extrême droite, qu'elles ont quelque chose d'inquiétant. Or, elles sont très vivantes dans les pays dont nous parlons, et elles ne sont pas politique en elle-même, quelle que soit la récupération qui puisse en être faite par la suite. Et Georges Bataille a montré qu'il ne pouvait pas y avoir de société apaisée sans une alternance entre le travail et l'utilitaire, le technique, etc., et les fêtes. Et il y a chez lui une pensée de la fête comme le moment où la communauté se refusionne, si je puis dire,
se réunit
à nouveau. Et je crois que les luttes peuvent être des moments festifs, je parle des luttes écologiques, et inversement, les fêtes peuvent participer à des prises de conscience que la communauté existe et qu'elle doit défendre parfois sa langue, parfois son milieu naturel.
Jean-Marc Guitti, je voudrais terminer cette émission en lisant les quelques dernières lignes de votre essai, car elles me paraissent synthétiser votre cheminement dans cet essai. Sauver pays par pays, lieu par lieu, lutte par lutte, vous parlez bien sûr de la terre. C'est parce qu'elle redevient en chaque lutte, en chaque lieu, en chaque pays présente à l'homme, que la terre sauve les hommes, âme par âme. Elle leur rend une existence terrestre. Voilà les quelques très belles dernières lignes qui font que cet essai nous encourage finalement à ce cheminement visant à donner de l'espoir, à sauver finalement notre planète Terre pour y vivre pleinement notre condition terrestre. Merci Jean-Marc Guitti.
Merci à vous.